Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 15h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Et comme toutes les heures, c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Dans l'actualité à nouveau, des dizaines de victimes dans la bande de Gaza. Parallèlement, le Premier ministre israélien se dit ouvert à un accord incluant la fin de l'offensive de son armée. Mais un tel accord devra aussi comprendre l'exil du Hamas et le désarmement du territoire palestinien. On vote ce dimanche dans plusieurs pays d'Europe, Roumanie, Pologne et Portugal, à suivre dès le début du journal. L'Ukraine continue de subir des attaques massives. Près de 280 drones russes ont visé la nuit dernière de nombreuses régions d'Ukraine. Le pape Léon XIV a célébré la messe inaugurale de son pontificat, évoquant l'Ukraine martyrisée. Il recevra dans la journée son président Volodymyr Zelensky. On vote en Pologne ce dimanche au premier tour de la présidentielle. Tout devrait se jouer entre un Européen convaincu, Rafał Trzaskowski, et un nationaliste admirateur de Donald Trump, Karol Nawrocki. Sauf surprise, le second tour se jouera le 1er juin entre ces deux candidats. Les bureaux de vote en Pologne ferment à 19h TU. Un sondage à la sortie des urnes doit être publié aussitôt après. Ce matin, les électeurs ont commencé à voter à Varsovie. Notre envoyé spécial Daniel Valot a rencontré plusieurs d'entre eux.
Nous sommes dans le bureau de vote numéro 20 au rez-de-chaussée du Palais de la Culture, cet immense gratte-ciel offert par Staline à la Pologne dans les années 50. Devant les assesseurs, posé à même le sol en marbre, une immense urne en plastique, Grzegorz vient d'y glisser son bulletin de vote pour la candidate de gauche, Magdalena Biejat.
Elle se bat pour les droits des femmes, pour les jeunes, pour les minorités. À mon avis, c'est elle qui le fait avec le plus de convictions.
Des convictions fortes, mais aucune chance de se qualifier pour le second tour. Maria a donc décidé, elle, de voter dès ce premier tour pour le maire de Varsovie.
Il est crucial que le président et le gouvernement soient sur la même ligne. Le président sortant a bloqué toutes sortes de lois. Bien sûr, si Trzaskowski est élu, le gouvernement ne pourra pas faire tout ce qu'il veut, mais ce sera plus facile.
Assuré de finir en tête de ce premier tour, le maire de Varsovie se projette déjà vers le second, avec l'espoir de gagner des voix dans les zones rurales du pays. C'est pour cette raison, sans doute, qu'il a choisi de suivre les résultats de ce premier tour, non pas dans son fief, mais dans le sud de la Pologne, dans une petite bourgade située à 200 km de la capitale. Daniel Valot, Varsovie RFI.
Le reportage donc à Varsovie de Daniel Valot. Le résultat s'annoncerait en Roumanie, où se tient ce dimanche, cette fois, le second tour de la présidentielle. Face à face, le nationaliste George Simion et le maire centriste de Bucarest, Nicoșor Dan. Bataille indécise dans ce pays très polarisé, voisin de l'Ukraine. Elle intervient 5 mois après la spectaculaire annulation d'un scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe. L'actualité électorale du jour en Europe, c'est aussi un scrutin législatif au Portugal. La droite modérée au pouvoir du Premier ministre Luis Montenegro par favorite. Dans un tout dernier sondage, elle est créditée de 34% des intentions de vote contre 26% au Parti Socialiste. Alors que la menace de récession se précise au Portugal, l'économie fait figure de grand oublié de la campagne. Correspondance à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Les Portugais sont mécontents de retourner aux urnes pour la troisième fois en 3 ans, des politiques et de leurs promesses, et mécontents de la cherté de la vie. L'indice de satisfaction des consommateurs vient de faire une chute spectaculaire de 20 points. Fernando Pinheiro, rencontré à Lisbonne.
C'est préoccupant, bien sûr. Nous qui sommes ici tous les jours au travail, quand on fait les courses, on sait bien ce que ça coûte. Tout augmente tout le temps. Les gens se plaignent des salaires, car ça ne suffit plus pour payer le loyer.
Au premier trimestre de 2025, le PIB, la richesse du pays, s'est effondré d'un demi-point par rapport au dernier trimestre de l'an dernier, la conséquence d'une conjoncture difficile. Et si la tendance se confirme, le Portugal se dirigera vers la récession. Toutefois, la tendance négative est trop récente pour affecter le sens du vote des Portugais, selon Filipe Arremondo, politologue.
Les élections sont proches des résultats trimestriels. Le Premier ministre a pu éviter le thème et l'opposition ne s'en est pas saisi. Il est vrai que nous n'avons jamais eu un chômage aussi bas, 6,3%, alors ça se maintient comme ça.
quant à décrocher une majorité selon les derniers sondages, aucun parti ne serait en mesure de le faire. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Et sur toutes ces élections aujourd'hui en Europe, je vous invite à lire le dossier préparé par la rédaction internet de RFI. Le pape Léon XIV a célébré la messe d'inauguration de son pontificat. C'était ce matin place Saint-Pierre de Rome, devant des dizaines de milliers de fidèles et quelques 200 délégations officielles venues du monde entier. Le nouveau pape a donné le ton de son pontificat en dénonçant les excès du capitalisme, une économie exploitant la nature et marginalisant les pauvres. Il y avait dans l'assistance le vice-président américain J.D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, les deux se rencontrent actuellement à Rome. Le pape a évoqué un pays martyrisé. Il recevra dans la journée son président Zelensky. Sur place, l'Ukraine a été visée la nuit dernière par une attaque massive de drones russes. Une femme a été tuée près de Kiev. Au moins 100 nouveaux morts dans la bande de Gaza, bilan de la nuit dernière de sources palestiniennes. Depuis jeudi, l'armée israélienne intensifie ses frappes, faisant des centaines de morts. Parallèlement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se dit ouvert à un accord incluant la fin de l'offensive de son armée. Un tel accord devra toutefois comprendre aussi l'exil du Hamas et le désarmement du territoire palestinien. De son côté, le Hamas a annoncé le début à Doha d'un nouveau cycle de négociations indirectes. En cas d'échec, Israël tiendrait déjà prêt à un plan secret appelé Phase 3, plan qui a fuité dans la presse. Il prévoit de diviser Gaza en trois zones séparées et contrôlées par l'armée. Heike Schmidt a recueilli l'éclairage d'un spécialiste, Frédéric Ancel, chercheur docteur en géopolitique.
On a affaire à un plan de type militaire au fond assez classique. Vous tronçonnez le territoire, vous empêchez en principe les forces du Hamas de passer d'un territoire à un autre et puis vous faites en sorte d'éviter la projection de puissance ou la projection de violence, notamment balistique, du Hamas sur le sol israélien lui-même. Alors, de toute façon, la majorité des civils, selon ce plan, se trouvent face à la mer. C'est-à-dire qu'évidemment, l'état-major israélien a considéré dès le soir du massacre du 7 octobre que plus aucune population ne devait jouxter immédiatement la population israélienne. Et donc, ce serait l'essentiel de la population serait concentré à l'ouest de la bande de Gaza, c'est-à-dire en fait sur la côte, sauf à l'extrême nord et sauf à l'extrême sud. Pourquoi ? Parce que l'extrême sud, c'est évidemment l'axe de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte. Et les Israéliens considèrent que le Hamas s'est approvisionné pendant des années via des tunnels qui passaient sous la frontière égyptienne. C'est au niveau de Rafah, en fait, si vous voulez. Donc là, c'est bloqué. Et à l'extrême nord, parce que l'essentiel des roquettes et des missiles qui menaçaient Israël partaient du nord du territoire.
Frédéric Ancel, qui enseigne à Sciences Po Paris. Le dernier bilan d'une série de tempêtes et de tornades qui ont frappé le centre et le sud des États-Unis s'élève à 25 morts. En Argentine, des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans plusieurs villes de la province de Buenos Aires en raison de ces inondations. En France, c'est le jour J chez les Républicains. Le parti de droite appelé à désigner son nouveau chef. Les adhérents, ils sont plus de 120 000, doivent départager ce dimanche Bruno Retailleau, qui par favori est Laurent Wauquiez. Ils ont jusqu'à 18 heures pour voter. Le résultat doit être connu dans la foulée. Plus de 33 milliards de dollars d'investissement sont présentés comme durables. On les retrouve pourtant dans des grands groupes pétroliers comme BP, Total Energy ou encore l'américain Chevron. Une enquête publiée par le journal The Guardian met en lumière le flou des règlements qui encadrent ces investissements verts. L'autorité européenne des marchés financiers devrait introduire sous peu de nouvelles règles limitant ces abus. Explication de Simon Rosé.
Durable, trajectoire climatique, ce sont des termes que l'on retrouve fréquemment dans ces fonds d'investissement, une promesse d'argent placé pour financer la transition énergétique. Et pourtant, révèle cette enquête, des géants des hydrocarbures profitent également de ces placements. Et pas qu'un peu, ce sont 33 milliards de dollars qui ont été identifiés au profit d'entreprises comme BP, Chevron, Total Energy ou encore ExxonMobil, bien loin donc des objectifs affichés. Les fonds d'investissement concernés se défendent. Investir dans de telles entreprises permettrait d'avoir voix au chapitre et de réorienter leur stratégie. De fait, c'est plutôt l'inverse qu'on observe. Nombre d'entre elles revoient leurs objectifs à la baisse et aucun grand producteur de gaz ou de pétrole n'a de plan conforme avec les objectifs internationaux de lutte contre le réchauffement climatique. Une entourloupe rendue possible par la permissivité des règles européennes en la matière. Une situation qui devrait cependant évoluer avec l'entrée en vigueur le 21 mai de directives plus strictes. Les gestionnaires des fonds devront désormais démontrer que leurs investissements sont réellement engagés sur une trajectoire de transition. Mais plutôt que de se conformer à ces nouvelles règles, plusieurs d'entre eux ont tout simplement annoncé abandonner le terme durable du nom de leur fonds d'investissement.
Simon Rosé, chef du service environnemental. l'environnement de la rédaction de RFI. Avant de conclure, un mot du tennis avec au programme aujourd'hui la finale du tournoi de Rome. C'est le dernier grand tournoi de préparation avant Roland-Garros. Opposé à l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, le numéro 1, l'Italien Yannick Sinner tentera de faire aussi bien que sa compatriote Paolini, vainqueur hier chez les dames. Alcaraz Sinner à 17h. Tout de suite, bonne journée sur RFI avec Si Loin Si Proche.